L'été rime avec les fortes chaleurs et donc entraîne un risque accru d'incendie dans les zones forestières. On entend souvent parler aux informations des grands incendies de forêt au Portugal. C'est pourquoi je suis allée à la rencontre d'Emmanuel Oliveira. Ingénieur agronome spécialisé dans les incendies de forêt et chercheur sur l'usage du feu par les communautés traditionnelles et indigènes, il nous en dit un peu plus sur la situation de l'Alto Minho en termes d'incendie et comment le territoire se prépare à l'arrivée de l'été. Mais pour commencer, c'est quoi l'histoire des forêts en Alto Minho?
Le territoire de l'Alto Minho est un territoire relativement petit, non? Estamos a falar que engloba un district.
Le territoire de l'Alto Minho est relativement petit. Il englobe un district avec 10 municipalités. C'est très rural. 93% du territoire est rural, ce qui veut dire utilisé pour l'agriculture ou par la forêt. Il y a plus de 150 000 hectares de forêt. Notre forêt est composée à 60-65% d'espaces communautaires. Ce n'est ni privé ni de l'État. Elle n'a pas de propriétaire.
De espaço comunitário, ou seja, baldios, nós chamamos de baldios, não é privado, não é do Estado, não tem dono. Aquilo que aconteceu foi alterações de...
Ce qui s'est passé en Alto Minho, c'est une altération de l'usage du sol. Et donc, on a planté des arbres pour faire des forêts. Il y a eu une première époque, des années 40 aux années 70, où c'est surtout du pin maritime qui a été planté. Puis, à partir des années 70, il y a eu l'introduction de l'eucalyptus.
L'introduction de l'eucalyptus. Com o passar do tempo,
algumas... Au fil du temps, il y a eu des parties de forêt qui sont devenues plus denses avec beaucoup d'eucalyptus. Il y a également eu de l'exploitation de ces forêts par des entreprises. Cela a entraîné un changement de notre paysage qui a peu à peu perdu son hétérogénéité, cette diversité mosaïque très importante et qui a commencé à s'homogénéiser.
Tão importante e foi começando a homogeneizar-se com tudo isto, não é?
La forêt de l'Alto Minho compte donc deux espèces très inflammables, le pin maritime et l'eucalyptus. Ces espèces augmentent d'autant plus le risque d'incendie quand elles sont abandonnées.
Podemos até dizer europeia, não é? Não é tanto pela área ardida, não é?
Il existe beaucoup d'incendies en Alto Minho comparé à l'échelle nationale, même européenne. Ils ne sont pas importants au niveau de la taille de la superficie brûlée, mais c'est plutôt qu'ils sont très récurrents. Les communautés traditionnelles utilisent beaucoup le feu, et il y a également de la criminalité. On l'observe dans les statistiques que la criminalité et les négligences sont les causes de nos incendies. Il faudrait étudier davantage la motivation derrière ces actes.
Na causa dos nossos incêndios, a verdade é que temos que estudar mais a motivação. Realmente aquilo que temos é uma...
Ce que l'on observe, c'est un paysage plus homogène dans la partie ouest de l'Alto Minho, plus couvert par des pins maritimes et des eucalyptus qui ne sont pas gérés. L'autre problème grave qui accompagne les incendies et qui s'aggrave avec le changement climatique, c'est la propagation des espèces invasives exotiques venant surtout d'Australie.
A maior parte vieram da Austrália. Não traz valor nenhum acrescentado, não pode ser utilizada para nada, para fins económicos, e temos aí um problema grave, não é?
Ces espèces n'apportent rien, on n'en a aucune utilité. Le problème est que les incendies permettent qu'elles se propagent toujours plus dans l'espace, tournant le paysage davantage homogène. Avec le changement climatique, ces espèces souffrent également et répondent. Si elles sont dans un état phénologique où elles souffrent de stress hydrique, elles vont amener un type de feu plus compliqué à combattre.
Digamos, souffrent pour un stress hydrique, não é? Vai trazer un type de fogo mais complicado também para nós que não estamos habituados a este tipo de combate. A nível do que é a gravidade dos incêndios, o aumento de intensidade.
La gravité et l'augmentation de l'intensité des incendies est principalement due au paysage homogène et au comportement homogène du feu. Ensuite, cela s'aggrave avec le changement climatique. Les phénomènes extrêmes sont de plus en plus récurrents.
Os fenómenos extremos tendem a manter-se, a serem mais recorrentes. Então temos de estar preparados, mas não é como a paisagem que estamos a que falamos ainda agora, não é?
On doit donc être préparé. Mais ce n'est pas avec un paysage peu diversifié et homogène que l'on va pouvoir résoudre ça. C'est pour ça que l'intensité des incendies s'est aggravée. Leur récurrence, non. Les incendies sont plus graves car ils sont moins fréquents. Plus une certaine zone va brûler, moins elle sera propice à subir de grands incendies.
Uma determinada zona, menos é propensa a ter grandes incêndios intensos. Nós com uma
Une forêt peut mieux faire face aux changements climatiques extrêmes si elle est composée d'espèces diversifiées. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qui est fait actuellement.
Estamos a fazer isso.
Comme Emmanuel l'a mentionné, le changement climatique est un facteur qui aggrave d'autant plus ces incendies. Il nous en dit un peu plus sur cet aspect et sur ses conséquences. Notre été ici souffre de températures plus élevées et d'une humidité plus faible. On n'a pas besoin de beaucoup plus pour que les incendies démarrent. On a juste besoin d'être quelques semaines sans pluie et il va y avoir des incendies.
Para termos incêndios.
Cette année, l'hiver a été très sec, mais le printemps a vu beaucoup de pluie et d'humidité. Emmanuel m'a expliqué que la distribution des précipitations dans le temps avait évolué et que si, durant l'été, les précipitations étaient bien distribuées, le risque d'incendie restait faible. Dans le cas contraire, il est plus élevé. La gravité des incendies va dépendre de l'état de la végétation en termes d'humidité, associée évidemment à la météo et à la répartition des différentes espèces végétales sur le territoire.
Eu não vejo que este problema seja superior ao problema das mudanças da paisagem, não é? Das mudanças socioeconómicas também, mas também das mudanças do nosso território.
Je ne vois pas le problème du changement climatique comme un problème plus important que celui des changements paysagistiques et des changements socio-économiques de notre territoire. Le problème est que tous ces changements arrivent en même temps. Les changements de notre paysage, associés à des phénomènes météorologiques extrêmes, vont aggraver la situation des incendies de forêt, sans aucun doute. Les changements climatiques, et en particulier la distribution de la précipitation sur le territoire et sa fréquence, peuvent amener des conséquences négatives.
Hoje temos momentos em que num mês, até podemos dizer, se formos à estatística, vemos que num mês ardeu igual aos anos anteriores. Só que quando vamos ver a concentração dessa chuva foi em dois ou três dias. E não foi ao longo do mês, como antigamente acontecia, não é? Como há décadas atrás acontecia. Então, essa distribuição é que pode ser negativa.
On a un cadre de changement climatique qui amène des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais on a également un paysage qui s'est aggravé. Un paysage homogène est moins résilient. Nous pensons bien souvent que le feu est le mal dans les situations d'incendie, quand, au contraire, son usage en amont fait aussi partie de la solution et serait même bénéfique pour prévenir l'arrivée de ces incendies. Étonnant, non ? Vous y croyez, vous ? Emmanuel nous explique pourquoi.
Capacitar a população de ferramentas.
Il faut permettre à la population d'avoir des outils légaux qui leur permettent d'utiliser le feu avec une formation spécifique, des règles définies, mais qui leur permettent de l'utiliser. On a demandé que l'usage du feu par les communautés soit réglementé, mais pas tant conditionné au point de l'interdire. Mais on n'a pas été entendu par l'Assemblée de la République portugaise sur ces questions.
Então é preferível, não é? Deixá-los fazer fogo legalmente, cobrindo, digamos assim, as suas necessidades, eles próprios, mas de forma
régulière. Il est préférable de laisser les communautés faire du feu légalement pour couvrir leurs besoins de manière réglementée. Mais ce n'est pas ce qu'il se passe. Alors on voit une augmentation des incendies, car les personnes le font illégalement, et c'est donc un feu proscrit qui amène des conséquences négatives.
Feito pelas comunidades, passa a ser fogo proscrito, é só mudar a vogal, não é? Passa a ser um fogo perseguido, um fogo ilegal, que traz consequências também mais negativas na altura, porque não devia haver fogo, não é?
Le feu est trop souvent vu comme le problème, quand il est au final la conséquence d'événements et d'actions du passé. Il est donc nécessaire de changer notre vision des incendies pour les résoudre. Emmanuel nous explique pourquoi.
Isso é um erro que passa por, digamos, por olharem os incêndios florestais como incêndios apenas de problema florestal. Não podemos esquecer que o nosso território, e quando
falamos de território... C'est une erreur de regarder les incendies de forêt comme des incendies qui dérivent de problèmes uniquement forestiers. On ne peut pas oublier que le territoire de l'Alto Minho est agraire, sylvestre et pastoral. Le feu fait partie de chacune des composantes de ce triangle. Comprendre la relation entre le feu et ses composantes est une manière de résoudre le futur. Voir les incendies forestiers uniquement de la perspective de la forêt est une erreur dans leur prévention. On doit regarder le territoire de manière holistique.
Perceber isto, esta relação, é uma forma de resolvermos o futuro. Considerar os incêndios florestais só pela componente florestal é um erro na prevenção. Eu prefiro resolver as coisas na minha perspectiva como técnico e também na área da investigação, prefiro olhar para o território numa perspectiva holística. As campanhas que temos é não use o fogo, as campanhas que temos é sempre...
Les campagnes de prévention, c'est toujours ne pas utiliser le feu. Toujours focaliser sur les incendies forestiers, au lieu de faire le contraire et de dire utiliser les sols, de donner des aides, de la reconnaissance au travail de nos agriculteurs, en leur donnant des compensations pour qu'ils maintiennent leur propriété, l'usage de leur sol. Mais ça n'a pas lieu, alors les gens se démotivent.
Nossos agricultores, compensando-os, obviamente, tem a ver aqui uma compensação daqueles que ainda mantêm as suas propriedades, os seus solos. Isso não está a acontecer, não é? Então as pessoas desmotivam.
Pour finir, Emmanuel m'a détaillé comment il travaillait quotidiennement à améliorer la prévention des incendies.
Os incêndios fazem sempre um caminho, não é? Os incêndios têm o seu caminho típico. E nós, reconhecendo os caminhos desse incêndio, conseguimos saber se um incêndio voltar a acontecer, porque os nossos incêndios...
Les incendies font toujours un chemin classique. En reconnaissant ces chemins, on arrivera à savoir si l'incendie se produit de nouveau ou l'on peut agir en temps voulu. Alors, on va faire un travail de prévention d'une précision chirurgicale. Cela n'empêche pas que les gens fassent des travaux qui altèrent le paysage. Avec une perspective de plus de diversité, en diversifiant le paysage, cela implique d'autres efforts, comme du reboisement, des projets liés au changement des usages du sol. On doit regarder la prévention de la même forme que l'on regarde le feu, de forme holistique. L'Alto Minho est un territoire agraire, sylvestre et pastoral. En oubliant cela, en oubliant l'une de ses composantes, on oublie le territoire. Et donc, on ne peut rien résoudre.
A prevenção da mesma forma como falei com o fogo, de forma holística. A nossa aptidão do território do Alto Minho é a agro-silvopastoril. E esquecermos disto, de uma destas peças, é esquecermos o território. Então não vamos resolver nada, não é? E a prevenção deve ser holística também, não é? Vermos o que é que podemos, quem vai ganhar com isto? Je ne peux pas queimer un territoire, une aire, faire une
queimer. La prévention doit être holistique également. Je ne peux pas brûler une zone, un territoire, sans me demander qui va utiliser ce territoire que je vais traiter par le feu. Comment il va être utilisé? Pourquoi faire? Quand vais-je utiliser le feu? De quelle manière? Il faut tenter d'intégrer les acteurs du territoire, ceux qui utilisent l'espace. Que ce soit pour la vie sauvage, des producteurs locaux ou des communautés traditionnelles. On doit avoir cette approche. Dans le cas contraire, je suis très sceptique sur les résultats d'une quelconque prévention.
Para a vida selvagem, ou seja, para os produtores locais ou as comunidades tradicionais, não é? Então temos que ter essa perspectiva. Caso contrário, sinceramente, sou muito cético em aos resultados da prevenção.
Comme l'Alto Minho, le territoire du Finistère est concerné par le risque d'incendie. Mais l'arrivée de l'été pour la presqu'île de Crozon, c'est surtout l'arrivée accrue de touristes. Comment alors concilier la protection et la restauration de l'environnement, tout en accueillant chaque année de plus en plus de voyageurs et de voyageuses? En janvier 2020, la communauté de communes presqu'île de Crozon Aulne-Maritime a créé un service spécifique aux questions de gestion des espaces naturels et des sentiers. Yvan Sionneau y est responsable technique.
Notre métier, c'est de préserver les espèces et les espaces naturels et aussi de permettre aux usagers du territoire d'avoir des sentiers de randonnée bien entretenus et accessibles au cours de la saison.
Et qu'est-ce qui a été mis en place par le service depuis le début, depuis sa création ?
Déjà, la première chose, c'était de connaître le territoire, de connaître le réseau de sentiers, les espaces naturels du Conservatoire du Littoral, du département et des communes. Et après, la première chose qu'on a réalisée, c'est un peu un diagnostic du réseau de sentiers, de recenser les points de danger, parce qu'on est quand même sur un JR qui présente une certaine difficulté et des points de danger assez marqués. Donc on a essayé de les sécuriser, ces points de danger. Ça, c'est sur les sentiers. Et ensuite, sur les espaces naturels, nos premières actions, c'était de s'y approprier, parce qu'on a quand même plus de 1500 hectares protégés sur le territoire. Donc ça nécessite un certain temps d'appropriation. Et on a engagé nos premières mesures de gestion, notamment sur une tourbière à Tromel, sur la commune de Crozon, pour essayer de préserver des plantes carnivores, rares et protégées, maintenir l'habitat qui lui est favorable, et restaurer et préserver la biodiversité qui s'y trouve.
Alors là, on est au tout début de l'été. Comment le territoire se prépare à cet été, à l'arrivée de touristes ?
Alors, on est sur un territoire où la saison est de plus en plus longue, finalement. La saison commence quasiment dès le mois de mars et se termine après les vacances de la Toussaint, donc début novembre. On est sur des saisons très longues qui font entre 8 et 9 mois. Donc on s'y prépare quasiment toute l'année maintenant, hein, à la saison. Après, effectivement, l'été, il y a quand même une fréquentation et une pression touristique beaucoup plus forte. Et ça augmente un peu plus chaque année. Donc effectivement, on essaie d'anticiper cette évolution d'année en année, en améliorant l'aménagement de nos sites, en sécurisant davantage des sentiers aussi, parce que on voit que la surfréquentation sur certains secteurs crée une dégradation de l'assise et des dangers qui n'étaient pas présents jusqu'à maintenant. Et on fait en sorte aussi que tous les sentiers soient entretenus pour la grosse période d'affluence, donc pour le mois de juillet, que tout le réseau soit prêt afin que les randonneurs soient satisfaits et puissent randonner en toute sécurité.
Dans les autres actions mises en place par la communauté de communes de Presqu'île-le-Crozon, Aulnay-Maritime, il y a aussi les bifiles.
Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'impact du piétinement sur les espaces naturels et sur les sentiers aussi est très fort. Quand on a des milliers de personnes qui se succèdent, ça mobilise le sol, ça va créer de la terre fine, de la poussière qui, avec le vent, va être balayée et ça va créer une érosion en fait qui assez importante. Sur la pointe de Peignières, par exemple, qui est un très bon exemple, on voit que dès que le sol est piétiné, la terre se fragmente et se transforme en poussière, est balayée par le vent et on se retrouve sur un sol à nu où il n'y a plus que de la roche. Et pour ensuite restaurer les habitats de landes qui sont présents sur ce type de milieu, il va falloir des fois 10 ans pour reconstituer un sol, reconstituer la végétation qui se développe sur ces sols. Donc c'est très long. En 2 mois, on peut saccager un espace naturel, il va falloir 10 ans pour le reconstituer. Donc l'intérêt, c'est de canaliser le public pour éviter qu'il se disperse partout, qu'il piétine l'ensemble de ces sites très fréquentés. De maintenir des sentiers prioritaires, on va dire, donc canalisés par du monofil qui. C'est-à-dire un fil qui est assez bas, hein, qui fait une vingtaine de centimètres de hauteur, donc ça dépayse pas, ça ne saccage pas le paysage, on va dire, ce dispositif. Et c'est assez efficace en termes de canalisation. Les gens restent bien sur les chemins et se dispersent plus sur les landes qui sont situées de chaque côté du sentier, quoi.
Et du coup, au niveau des végétaux, c'est quoi le résultat ?
Donc, on a une zone qui est très piétinée, très fréquentée, où là, clairement, il n'y a plus de végétation. On est sur un chemin recouvert de cailloux. Hein. Par contre, sur les zones qui sont mises en défense, on n'a pas la dégradation du milieu. Et sur les zones qui ont été dégradées avant aménagement, avec le monofil, on commence à observer une reconstitution des habitats et du sol, mais c'est très long. En 5 ans, on commence à voir le retour de la végétation, par petites tâches disparaître, mais pour reconstituer l'ensemble de l'habitat, il va falloir bien plus de temps que ça, ouais, ça va être très long. En fait, le problème, c'est que c'est piétiné, le sol est parti, et on a l'action du vent en permanence, qui vient balayer toute particule de sol qui vient se déposer, toute particule de terre fine, qui va permettre à la végétation de se développer, et rebalayer par le vent, donc c'est très long, et on essaie de reconstituer les habitats en favorisant le maintien des particules fines au sol, par la mise en place de nattes textiles, par exemple, qui va permettre aux petites particules de sol de s'accumuler sur ces nattes-là, et là, la végétation va se restaurer plus rapidement. Mais même avec ce dispositif-là, il faut plusieurs années, quoi.
Donc concrètement, une des actions mises en place, là aujourd'hui, on est sur la plage de Morgat, et il y a un exclos qui a été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Effectivement, on est sur une zone qui a été clôturée sur la plage de Morgat pour la raison que pendant le confinement, en 2020, on a un couple de grands gravelots qui est venu s'y installer parce que les plages étaient interdites d'accès au moment du confinement. Donc c'était vraiment un retour à la nature de ces espaces très fréquentés. L'oiseau est venu s'y installer, a commencé à nicher, et début mai, le déconfinement a été prononcé, les plages ont été réouvertes assez vite ensuite. Les grands gravelots, mais pas que, les gravelots à collier interrompu, enfin tous ces petits limicoles-là, nichent à même le sol. Ils font des petites cuvettes dans les galets, qui viennent tapisser de petits fragments de coquillages. Et les œufs ont la même couleur que les galets, ce qui fait qu'on ne voit quasiment pas les œufs. Et il est très facile de détruire un nid sans s'en rendre compte, de marcher dessus, sans avoir perçu qu'il y avait un nid au sol, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est très important de mettre en défense les zones de nidification. Et puis aussi, même tout simplement, quand il n'y a pas de zone de mise en défense, d'éviter de marcher sur les cordons de galets, parce que c'est souvent sur les cordons de galets que ces oiseaux-là viennent nicher. Et pour éviter que le gravelot soit dérangé par la fréquentation piétonne, par les chiens sur la plage, etc., on a décidé de mettre en place ce dispositif afin qu'il puisse rester tranquille. Et ça a été un beau succès puisqu'on a eu 4 petits ailes en vol en 2020. Et il faut savoir qu'il y a plus que 200 couples de grands gravelots en France, donc c'est assez peu. C'est-à-dire que le couple qu'on a sur cette plage, c'est quasiment 1% de la population française en nidification, donc c'est pas négligeable. Et on a vraiment une responsabilité de conservation et de préservation de cette espèce-là. Donc on a travaillé avec la commune pour l'installation du dispositif, avec le parc marin aussi de la mer d'Iroise. C'est vraiment un projet concerté. Et en plus, on a vu qu'à l'automne, au moment de la migration des grands gravelots, l'enclos là, a permis à des grosses concentrations de grands gravelots de venir se reposer, parce que c'est une zone de calme, ils ne sont pas dérangés par les chiens, ils ne sont pas dérangés par les piétons, et du coup on peut avoir jusqu'à 70 grands gravelots qui viennent se reposer là en période migratoire. Donc c'est vraiment un beau succès, et c'est pour ça que ce dispositif reste en place toute l'année.
Et en même temps, c'est un dispositif qui dépaysage pas du tout le paysage.
Alors ça dépaysage, ça dépend pour qui. On va dire que ça crée un îlot de nature sur la plage. On a une végétation qui se développe, qui ne se développait plus parce que le piétinement mobilise le sable en permanence. Il y a aussi un entretien de la plage qui est fait. Donc on est sur un milieu qui est un petit peu dénaturé, on va dire. Et là, on a remis une petite poche de nature sur la plage. Et on a effectivement des plantes protégées aussi qui s'y redéveloppent. On a le Polygonum maritimum, qui est une plante protégée et rare, et qui retrouve sa place sur l'enclos et qui se développe de plus en plus. On en voit de plus en plus.
Dans les actions de la communauté de communes, il y a donc des actions de prévention, de gestion, mais il y a aussi des actions plus répressives.
Ouais, tout à fait. Donc on est commissionné assermenté police de l'environnement sur les terrains du conservatoire du littoral et sur la réserve naturelle régionale géologique de la presqu'île de Crozon. Et on veille à ce que la réglementation et le code de l'environnement soient bien respectés, que les arrêtés municipaux aussi qui réglementent certaines pratiques comme le camping sauvage, le feu, la divagation des chiens soient bien respectés pour que et la nature et les usagers y trouvent leur compte. L'important, c'est de vraiment concilier les différents usages, mais il ne faut pas que l'homme prenne le dessus sur les autres usagers sauvages des espaces naturels. Et nous, on veille à ça en fait avec notre pouvoir de police pour que cette limite soit bien marquée et limiter au maximum le franchissement de cette limite et les impacts sur les espaces naturels et les espèces sauvages qui y sont présentes.